Retrouvez l'émission C'est le week-end le vendredi en semaine paire de 19h à 20h sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. La vie est parfois incroyable et bien faite. Un jour, vous vous rêvez à faire une émission en public dans un super événement. Le lendemain, vous recevez un mail de la part d'une super radio qui vous programme, vous proposant de faire une émission en public au Angers Geek Fest. Le surlendemain, vous recevez votre carton d'accréditation presse. Le sur-surlendemain, on vous dit que les deux grandes stars acceptent d'être interviewées par vous. Et le sur-sur-surlendemain, vous voilà devant un micro avec un public en folie. J'avais écrit ça avant de savoir s'il allait y avoir du public autour de ce studio, et il y en a. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le week-end, votre émission qui vous aide à préparer votre week-end, mais qui cette semaine vous a préparé une émission spéciale, Angers Geek Fest bien entendu. Et je ne suis bien sûr pas venu seul aujourd'hui puisque j'ai à mes côtés celui qui ne pouvait pas ne pas être là puisqu'il se revendique geek, le plus geek d'entre nous, Benjamin. Bonjour Benjamin.
Hello, comment ça va? Bah écoute, très très bien et tout, mais c'est dingue comment tu me catégorises directement et tout. Est-ce que tu sais de quoi tu parles déjà? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire geek déjà? Petite définition? Oh, il m'a... Ah non, j'ai cru que tu m'avais coupé, pardon.
Non, j'allais dire que c'était quelqu'un qui aimait la culture pop.
Ah, voilà. Bah écoute, j'aime pas les figurines pop.
Ok, super, merci.
Ne me tuez pas s'il vous plaît, c'est
allez,
bon.
Salut, hop, au revoir.
Super, merci. Allez, dis-moi Benjamin, j'ai dit que tu étais geek, mais est-ce que tu te penses geek? Voilà, c'était ça ma question, j'ai mal...
Bon, en vrai, genre, je t'ai taquiné. En vrai, si c'est la culture pop, en vrai, ça prend plein de formes possibles, en vrai. Donc, si c'est aimer les animés, les jeux vidéo, ou jeux vidéo, ou tout sorte de trucs où t'as des univers, en fait, aimer des univers globaux, bah ouais, je pense que tout le monde est un peu geek, finalement, parce que je pense que tout le monde apprécie au moins un univers qui lui parle et dans lequel il se retrouve. Donc, moi, je dirais que oui, pour ma part.
Ok, merci Benjamin. À nos côtés, il y a celui dont je ne sais pas s'il est geek, mais je sais qu'il sent bon. Par contre, c'est Maël. Bonjour Maël.
Je confirme, il sent bon.
C'est très aimable, je m'attendais pas à une telle introduction.
Ah bah si, tu vois, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Mais très bien, merci. Dis-moi Maël, est-ce que tu peux répondre à la même question, à la question que tout le monde se pose? Est-ce que tu es geek?
Je ne me qualifierais pas comme un geek. Je pense que je suis un peu nerd sur certains sujets, mais pas vraiment sur. Je pense qu'il pourrait recouvrir le terme de geek.
Voilà. D'accord. Et mais pour toi, ça veut dire quoi geek justement?
Bah, je sais pas. C'est comme un peu ce que tu disais, genre sur la culture populaire et tout. C'est quelque chose que j'ai pas du tout eu dans ma vie, et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est pas du tout quelque chose. C'est pas du tout un terme sous lequel je me reconnais.
Ok. Allez, ajoutez à eux deux invités d'exception, des jeux d'anthologie et un micro-trottoir des plus sympathiques, et vous obtenez une émission dithyrambique.
Hey, c'est le week-end.
Cool.
Hey.
Petite précision pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, cette émission est enregistrée au Angers Geek Fest. Bah oui, on l'a dit au tout début, et ne vous est diffusée qu'aujourd'hui, vendredi 21 avril. Contrairement à toutes nos autres émissions, merci de ne pas utiliser le chat de Radio G, car nous ne sommes actuellement pas dans le studio. Mais par contre, vous pouvez venir à notre rencontre au 122, puisque nous sommes actuellement sur le Zigo Fest. Et avant de recevoir notre premier invité, je tenais à remercier chaleureusement Radio G et Fahadi pour nous avoir proposé cette super expérience.
Oui, bravo, bravo.
Et merci aussi au Angers Geek Fest et ses co-organisateurs et organisatrices, Destination Angers et Leno.
C'est le week-end!
Cool!
Le premier invité de cette émission spéciale Angers Geek Fest, c'est un honneur de le rencontrer et de partager le micro avec lui. Musicien, comédien et producteur, il a à son actif, un nombre incalculable de voix iconiques, et vous l'avez certainement déjà entendu. Bonjour Pierre-Alain de Garrigue, bonjour Padge.
Bonjour, je suis bien content de vous rencontrer. Alors au départ, je m'appelais Padge, mais j'ai décidé
de, comment dirais-je, de changer de personnalité, quoi. Wow. Et de vous dire bonjour, Radio G.
Radio G Angers, ça c'est bien trouvé encore, ça. Ça c'est bien trouvé, bravo.
Merci.
Donc voilà, bravo. Bah écoutez, oui, je suis content d'être avec vous, merci. Écoutez, il y a du fan. On va entendre d'ailleurs, on va leur demander d'applaudir. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est bien. C'est tous mes cousins, hein, on peut être d'accord. Ils sont tous de ma famille. À part lui qui est mon frère, mais ça c'est autre chose.
Bienvenue donc sur Radio G, bienvenue dans C'est le week-end. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec comment allez-vous?
Ça va très bien, écoute, l'ambiance est super, il n'y a que des potes partout. Je pense que Angers est content d'avoir ce festival et franchement, il y a beaucoup de bienveillance partout. Je dis bonjour à tous les gens qui me saluent. Non, mais qui croient que je suis leur banquier, donc ils vont venir en me disant il est super sympa en fait. Pourquoi il est aussi sympa? Oui, c'est le gars qui me prête de l'argent. Pas du tout, ce n'est pas moi.
Par contre, moi je vous prête de l'argent si vous voulez.
Pat, je demandais en début d'émission à Benjamin et Maël, nos chroniqueurs, s'ils se pensaient geeks. Je vous pose la même question. Est-ce que vous êtes geek?
D'abord, tu as le droit de me tutoyer, hein, tu sais, puisque tu es devenu mon meilleur ami il y a depuis 5 minutes.
C'est vrai. Et ben, est-ce que tu es geek?
Alors, pas du tout. Je suis pas du tout geek et ça veut dire que je ne sais même pas jouer. D'ailleurs, j'avais une émission sur YouTube qui s'appelle Je ne sais absolument pas jouer, ce qui est très très con, mais on a bien rigolé. C'est-à-dire, le seul jeu auquel j'ai joué la première fois, c'est il y a à peu près un an à Mario Bros. 2, je veux dire un Mario Bros en 2D. Et donc c'est là où j'ai compris les angoisses et le côté super nervous qu'on a quand on n'arrive pas quand on tombe dans la cheminée et qu'on peut pas, enfin, voilà quoi. Et donc je suis pas du tout geek, absolument pas. Par contre, c'est vrai, pour ceux qui savent, je suis un des personnages de la série Noob. Je sais pas si vous savez ou pas. Je suis le grand méchant de la série Noob. Évidemment, ça se déroule dans un univers geek. Et la première fois qu'on m'a demandé de tourner avec eux, je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. C'est-à-dire que le texte que je devais dire, je ne savais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas. On parlait de MMORPG, je disais les Murpug par exemple.
D'accord.
Voilà. Je ne suis pas du tout geek, non.
Et comment on fait? C'est une difficulté ou pas du tout? Parce que vous n'avez pas fait que la série Noob. Dans d'autres séries, jeux vidéo que vous avez pu doubler, est-ce que c'est une difficulté
Non, parce que tout le monde le sait. Quand je dis je ne suis pas geek, je m'intéresse à tout ce milieu-là. Avant, je n'y connaissais rien du tout. D'ailleurs, j'avais quand même une attitude qui disait je pensais que les joueurs étaient un peu autistes, tu vois. Je n'y connaissais rien. Sauf qu'au bout de toutes ces années à avoir fait du jeu vidéo, je faisais du jeu vidéo, mais avoir côtoyé tous ceux qui sont les acteurs de jeux vidéo, que ce soit des codeurs, des créatifs, des producteurs, je me suis bien aperçu que tout t'a froid, toi. Hein. oui, ils sont en face de la porte. Je me suis bien aperçu qu'en fait, ce qui était très intéressant, c'est que tous ces gens qui maintenant travaillaient, qui avaient entre 30 et 50 ans, il y a 30 ans, quand on a commencé les jeux vidéo, ils avaient 11 ans. Donc ils ne sont pas devenus des fous furieux. Je me suis bien intéressé à cette psychologie-là en disant, ça ouvre l'esprit beaucoup plus qu'on le croit. Et maintenant, je pense que ça vous ouvre vraiment, vraiment l'esprit. En tout cas, pas trop le mien, mais c'est des autres.
Finalement, on peut dire que vous êtes mis à la page, finalement.
Oh, le gars est marrant, le gars. Le gars a fait humour vulgaire en seconde langue. Mais c'est bien, t'as bien essayé.
Alors,
dérapage, s'il te plaît.
Vous êtes aujourd'hui l'un des doubleurs français les plus connus. Comment est-ce que vous avez débuté dans le doublage?
Alors, j'ai raconté ça à la conférence. Je n'ai pas débuté dans le doublage d'une certaine façon. Je n'ai pas fait d'école de comédie, j'ai fait des écoles de musique. Je suis un musicien professionnel et j'ai remplacé une fois ma première. Je ne vais pas refaire toute l'historique, mais j'ai remplacé un comédien qui n'arrivait pas à faire une phrase pour une publicité. Et en le remplaçant, j'y suis vraiment bien arrivé. Et j'ai, pour ceux que ça intéresse, c'était La Juste Sèche de Justin Bridoux, tous ceux qui n'étaient pas à la conférence. Donc il fallait dire une phrase en 8 secondes. Et la phrase à dire en 8 secondes, c'était La Juste Sèche de Justin Bridoux, une saucisse sèche, sa sèche, doit sécher sans s'assécher, elle sèche juste sèche. La Juste Sèche de Justin qui? La Juste Sèche de Justin qui? La Juste Sèche de Justin Bridoux.
Voilà. Bravo, bravo, je pense que ça peut s'applaudir.
Voilà, ouais, bravo. Waouh, respect.
Et donc quand j'ai fait ça, et ben, ça se montrait que étant musicien, j'avais un sens du rythme assez aigu et développé. Et on m'a tout de suite fait confiance et je suis devenu un peu monsieur pub. Et c'est ensuite ce qui est assez marrant, c'est que à l'époque, il y a 35 ans, quand le jeu vidéo arrive, il n'y avait pas de voix au tout début. Et moi, quand on me contacte, un monsieur me dit tiens, je sais que vous faites des voix, j'aimerais bien. Vous voyez ce que c'est que ce truc-là sur une table? Je dis oui, c'est un ordinateur, c'est ça? Vraiment, c'était ça. Hein. Il dit ok, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à faire de la comptabilité. C'était exactement ça. Et il m'a dit, nous on essaye, il y a des logiciels, rien que le mot, on ne savait même pas ce que c'était, et on va faire parler un personnage, et ils ont inventé donc Adi, qui est devenu ensuite Adibou, pour ceux qui ont joué à Adi et Adibou. Et donc j'ai été la voix d'Adi, et tout l'environnement de Adi, absolument toutes les voix, parce qu'ils n'avaient personne d'autre pour faire toutes les voix. Et pour ceux qui ont joué à Adibou, il y en a qui ont joué à Adibou ici. Voilà, donc il y en a. Et donc Adibou, eh bien, c'est une fille qui s'appelle Dolly Vanden qui fait la voix d'Adibou. Adi, c'était, il était un adolescent, c'était plutôt bonjour, c'est moi Adi, je suis à Radio Angers. Bon, ça c'est autre chose, mais Adibou était beaucoup plus jeune. Par contre, j'ai fait toutes les voix pour ceux encore une fois qui ont joué. Vous rappelez la radio d'Adibou?
Radio Adibou, bonjour, la blague du jour.
Voilà, c'est ça qui vous a traumatisé pendant des années. Et donc, ou alors Bozzy Gollum qui était le méchant, comme ça. Et Kikouk, le cuisinier, qui faisait oh, vous ouvrez la porte, c'est bien. Et je ferme la porte. Maintenant, nous allons faire une pizza. Connard. Pardon, moi je dis pas connard. C'est pas connard. Mais j'aurais envie de le dire par contre.
Et vous êtes aussi dans le dernier Adibou
J'ai fait toutes les voix dans le dernier Adibou, ouais, tout à fait. Enfin, sauf les voix d'Adibou.
Sauf la voix.
Mais bien sûr. Et on a changé, oui. Je crois que le cuisinier, je ne l'ai pas fait avec une voix un peu comme ça. Je leur ai rajouté une. Il a un cheveu sur la langue. C'est beaucoup plus marrant.
Ah, oh, c'est super. Vraiment, je suis content de faire de la pizza. Vraiment. C'est la pizza, nanana. Tout le monde la déteste, mais moi, je l'aime.
Voilà. Toujours aussi drôle.
Merci, il est sympa, lui. Hein.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le doublage?
Ah pardon, je crois que j'allais poser la question. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui vous plaît dans le doublage?
L'argent.
Oui, bah,
non, je déconne. Tout me plaît quand on parle du doublage, mais tout ce qui me plaît dans le fait d'utiliser sa voix. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des challenges, c'est ce que je disais tout à l'heure en conférence. L'idée, c'est d'avoir des challenges, d'être avec des clients qui ont des exigences. Ce qui est intéressant aussi, c'est de coller à des personnages. C'est, encore une fois, il y a des challenges aussi quand on vous dit, par exemple, si vous jouez à LOL, par exemple. Il y en a qui jouent à LOL ici? Oui.
Un petit peu.
Donc, quand la différence entre la voix qu'on me demande de faire de Kled, qui est très énergique tout le temps, pour ceux qui connaissent Kled, Scar, mais qu'est-ce que tu fais?
Mais oui,
il faut le tenir pendant des heures, hein. Et donc tu le tiens, donc c'est un vrai challenge. Pareil, Heimerdinger, il faut lui donner le côté un peu fou. Oh, je suis tellement content d'être ici, je suis un génie atomique. Oh, ce ne serait-ce pas le diagramme? Tu vois, etc. Donc à partir de ce moment-là, on te demande d'aller dans des trucs et tu dois délivrer tout de suite la façon de faire, le message. Donc c'est un challenge. Moi j'aime bien le côté de challenge, quoi.
D'accord. Et alors, comment ça se passe le doublage? Parce que nous, on connaît pas forcément très très bien.
Faut coucher. Non, je déconne.
Comment on double un personnage? Comment on double un film, une série, un jeu vidéo?
Ah bah, pour ceux qui savent pas, si vous avez déjà vu certainement, puisqu'on en voit plein sur TikTok maintenant ou sur plein de d'endroits, il y a ce qu'on appelle, on reçoit un film venu par exemple des États-Unis, et il y a ce qu'on appelle les adaptateurs et détecteurs. Donc, on va analyser les ouvertures de bouche des acteurs, et en fait avec le texte qu'on a déjà, le texte américain, eh bien les adaptateurs vont essayer de faire coller exactement les ouvertures de bouche à la voix française. Par exemple, vous avez quelqu'un qui dit tu es venu en week-end ici, tu vois. Oui. L'autre il dit where do you come from, par exemple, where do you come from, mais ça peut devenir je ne sais pas d'où tu viens. Ou tu vois, il faut en fait, on
c'est un travail hyper minutieux.
Ah, c'est hyper minutieux, mais nous, c'est pas nous qui le faisons. Ensuite, d'accord, on arrive dans un studio, et dans le studio, eh bien, vous avez déjà vu ça, il y a une barre, et on voit arriver un texte avec le nom de l'acteur, enfin, oui, ce qui nous correspond, en bleu, en noir, etc. Et on voit arriver la barre, et on doit parler sur la barre. Parce que la barre, c'est au niveau de la barre que c'est déterminé l'ouverture de la bouche. Donc en fait, d'accord, on voit arriver, on fait bonjour, comment ça va, mais c'est bonjour, comment ça va. C'est un truc que. Vraiment, il faut apparier ton œil avec ta bouche quelque part. Et en fait, ça se fait comme ça. C'est comme ça que ça correspond totalement vous avez déjà vu ça, tout le monde a déjà vu ça. Les bandes rythmées, ça s'appelle des bandes rythmo.
C'est hyper, donc hyper rythmé.
Ah, c'est hyper rythmé. Après,
hyper technique aussi.
Bah, c'est très technique parce que d'abord, vous devez parler sur la barre, mais en même temps, vous devez jouer l'intention de l'acteur. J'ai fait les Mystérieuses Cités d'Or, hein. Il y en a qui ont regardé ou pas?
Il y en a un peu quand même.
Bah, la dernière série, par exemple, où je fais deux gros personnages qui s'appellent Ambrosius et Zarès. L'un très sympa, l'autre très très dangereux et très. Et l'un parlant un peu comme Heimerdinger avec une voix qui fait oh, je suis tellement content, oh, je suis comme ça. Et l'autre étant un vrai danger. Mais. En fait, c'est le même personnage dans le dernier de la série. C'est que c'est le même personnage. Donc, des fois, j'avais des textes qui arrivaient et j'enchaînais les deux timbres différents. Donc ah, là, oui, c'est à la fois technique et il faut de toute façon être dans l'intention du, bah, du jeu, quoi.
Il y a un vrai travail avec votre voix, parce que votre voix, c'est votre outil de travail. Comment est-ce que vous créez une voix? Comment est-ce que vous arrivez à vous dire, ce personnage-là, je vais lui donner cette voix-là, celui-là, je vais lui faire cette voix-là?
Ça dépend du client, ça dépend de ce que... Il n'y a pas que les inventions de... D'abord, inventer une voix, c'est relativement rare. On colle plutôt à ce que c'est souvent à 80% des films étrangers.
Oui.
Donc on colle à l'acteur. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans, par exemple, il y a certains jeux vidéo. Je suis en train, par exemple, de faire un gros jeu vidéo qui s'appelle Powers. Power Z, ça vous dit quelque chose pour certains. Et ce gros jeu vidéo, en fait, je fais tous les personnages masculins. Mais là, comme c'est français, on m'a demandé d'inventer les voix. Mais là, c'est vachement intéressant parce que, par exemple, il y a un petit chat qui parle, mais qui est un peu un chef. Donc au départ, je me suis dit, bon, bah, on aurait pu le faire parler en disant,
oui, c'est super, faut vous dire que je suis à Radio Manger, c'est génial.
Puis je me suis dit, ça marche pas, c'est trop normal. J'ai fait une putain de grosse voix à la Jean Gabin, mais très très presque parisien. Donc il parle aux gens en disant ouais d'accord, je vais te dire une grosse chose, je ne souscris pas à ce que tu vas faire, mon petit. Tu vois, il parle comme ça, tu vois. Donc tu dis qu'il y a un chat qui parle comme ça, et bien en fait, ça c'est une vraie création. Ils ont gardé ça. Le chat est toujours énervé. Il est en train de te dire, mais je m'en fous. Et c'est très marrant. Pareil, il y a un explorateur qui est assez gros, etc. Mais on aurait pu le faire, oui, un peu comme ça. Et non, j'ai dit, on va le faire super snob, le gars qui se la joue grave. Et sinon, oui, vous ne connaissez pas les pyramides. Vous êtes vraiment des nazes. Voilà, enfin bon.
Et alors, qu'est-ce qui est le plus drôle pour vous? C'est de créer une voix ou c'est de reprendre une voix qui a déjà été un peu faite par un autre?
Non, c'est de créer une voix, c'est vraiment bien, mais de coller avec l'énergie de ce qui a déjà été fait, c'est aussi bien. C'est des exercices différents. C'est comme vous jouez au football, vous dribblez ou vous partez dans la profondeur ou vous faites un contrôle. Je veux dire, c'est toujours avec le ballon que vous jouez, mais c'est des gestes différents. C'est pareil, quoi. Qu'est-ce que j'exprime bien l'idée quand même, hein, c'est bien. Même moi, je m'étonne. Je dis, c'est qui le mec qui parle?
Et si tu devais choisir une voix préférée dans ton répertoire, on t'en donne trois parce que y en a beaucoup.
Trois?
Ouais.
Ah, je sais pas. Franchement, bizarrement, ça serait peut-être pas forcément des voix de jeux vidéo, hein.
Mais n'importe.
J'aime bien quand je fais des documentaires avec des. Ouais. Des documentaires avec des grosses voix, ce que je disais tout à l'heure en conférence, qui vous disent, par exemple, nous sommes dans l'Himalaya, l'Everest. J'adore ces trucs un peu, même de la poésie. Qu'est-ce que j'aimerais bien d'autre? Vous vous rappelez d'émissions Bienvenue chez nous? Il y en a qui s'en souviennent de ça?
Il y en a un
j'aimais
petit peu,
bien,
oui.
J'aimais bien les trucs un peu comme ça, qui sont presque du reportage à la M6. Transformer sa maison en chambre d'hôte, beaucoup en rêve, eux l'ont fait. Voilà, donc. Ou alors, non, ce que j'aime peut-être, j'aime bien les grosses conneries, tout ce qui est... il y en avait un que j'avais adoré faire, pour ceux qui connaissent, c'était dans Star Wars, les jeux. Et j'ai fait, vous rappelez, le gars qui était à côté de Jabba the Hutt, qui a une tête, qui est très grand et qui a une tête avec une sorte de truc qui sort de son cerveau. Vous vous rappelez pas de ça? Jabba the Hutt, c'était la grosse grenouille. Quand je vais vous faire la voix, vous allez comprendre.
Moi, ça ne parle pas du tout, mais allez-y.
Je ne sais plus son nom, et il parlait en faisant. Il y avait le petit à côté qui disait. Voilà, je faisais les deux. Donc, ça, j'ai bien aimé faire ça.
Okay.
Parce qu'en fait, je peux me permettre de dire n'importe quoi. Comme les trésors de Kellogg's, pour ceux qui connaissent.
Oui.
Il y en a une que j'ai adoré faire. Et tout le monde la connaît. Tout le monde connaît. Parce qu'on m'a appelé pour la réécrire en chanson. Je suis musicien. Oui. C'était la pub Tic Tac. Vous vous souvenez de la pub Tic Tac?
Oui. Ouais.
Et en fait, la pub Tic Tac, c'était une pub italienne. Mais en fait, ce qu'avaient chanté les Italiens, c'était super mou. Un peu les Italiens quand ils se la jouaient, c'était en français, ça marchait pas du tout, quoi. Et donc j'en ai fait, pour ceux qui connaissent, tout petit et aussi frais, frais et aussi fort, fort et aussi coloré.
Dans le public, ça connaît.
Écoutez-moi, flûte.
Pardon, pardon. Je m'excuse.
Alors, je vois que tu dérapes quasiment à chaque phrase. Est-ce que tu arrives à maintenir une distinction entre ta vie privée et ta vie de doubleur? Est-ce que des fois tes voix ne ressortent pas en repas de famille?
Non, parce qu'en repas de famille, il y a chez mon frère qui est là, il s'en foutrait un peu, il m'a entendu depuis tellement longtemps. Non, pas trop, non. Okay. Non, c'est vraiment. Non, en fait, pas trop. Non, c'est pas. C'est, il n'y a pas le côté je vais vous en mettre plein la vue. Non, franchement. Ouais.
Moi, ça fait quelques mois que je vois de plus en plus d'interviews de doubleurs, de doubleuses. J'ai l'impression que ces comédiens et comédiennes de doublage qui étaient un peu dans l'ombre, ils sortent un peu à la lumière. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que c'est un métier qui est de plus en plus mis en lumière? Est-ce que tu as l'impression que c'est un métier de plus en plus mis en lumière ou pas du tout?
Si. Et ça pose un peu un problème aussi. Parce que c'est vrai qu'avant, personne ne faisait attention à ça. Et maintenant, c'est un peu la hype. Évidemment, les réseaux sociaux, tous les exercices qu'il y a, tous les gens qui ont sorti des choses. Et les conventions aussi, parce que depuis qu'il y a les conventions, qui c'est qu'on rencontre? C'est ceux qui sont, c'est des comédiennes de doublage, c'est des acteurs du manga. Enfin, il y a énormément de gens qui s'intéressent à ça. Donc, ça développe un imaginaire qui fait que les gens veulent faire ce métier-là. Mais ils comprennent pas trop que c'est pas que du fun, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait vraiment une vidéo pour ça, pour répondre à ça, qui s'appelle Devenir une voix. Si vous avez envie d'aller voir cette vidéo, on l'a vraiment, avec l'équipe, on a vraiment fait un truc pour répondre, en fait, à toutes les questions que se posent des gens qui veulent faire ce métier-là. Mais en fait, c'est très, très, très. C'est, honnêtement, c'est extrêmement difficile. Pourquoi ? C'est simple. Parce que ce que je disais tout à l'heure dans la conférence, c'est que. Quand vous faites de la pub, quand vous faites du film, etc., c'est des producteurs qui sont derrière. Et les producteurs, c'est de l'argent. Et tout ça coûte énormément d'argent. Et les choix que les gens vont faire des comédiens, c'est un choix où tu peux pas planter, que ça soit le film ou la publicité. Donc en fait, on va prendre les gens qui sont les plus forts là-dedans. Et le problème, c'est que en France, le niveau, il est exceptionnel. C'est-à-dire que pour... c'est comme si t'avais comme choix 10 Ferrari et 10 McLaren, quoi, à choisir. C'est vraiment au Stradivarius, entre il y a des super forts. Donc les gens qui veulent arriver là, pour les clients, faut que vous arriviez, si vous avez envie de faire ce métier-là, il faut que vous soyez presque. On vous demande pas d'être presque à ce niveau, d'être à ce niveau-là, mais presque à ce niveau-là, parce que les clients, ils veulent ça, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir ça. Vous voyez la vitesse que je vais pour si on pourrait faire ces, tiens, on va faire des exercices pour vous montrer la vitesse. Prenons, on va s'amuser. Mes potes qui sont là. Pour vous montrer comment ça marche.
Allons-y.
Par exemple, prenons la phrase de « Hey, monsieur Ducourbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. » Vous avez de La Fontaine. Ok,
allons-y.
L'exercice, vous allez me dire un adjectif qui correspond. Genre snob, bourré, un truc, une connerie. Et moi, il faut que je m'adapte tout de suite.
Ok.
Bah, ok. Allons-y. Mais ça veut dire que la vitesse que je vais faire, ça veut dire que ça doit être la même chose en studio. Des demandes des clients. Donc la phrase c'est: monsieur Ducourbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, si votre ramage, vous vous rappelez de ça. Oui. Alors vas-y, donnez-moi n'importe quoi.
Allez-y, si vous dans le public vous en avez un.
Quoi?
Bourré.
Bourré. Monsieur Ducourbeau, si vous êtes nuit, je ne me sentrai pas.
Déprimé.
Monsieur Ducourbeau. Non, je n'arriverai pas.
Un autre encore? Est-ce que quelqu'un... Timide.
On est un peu dans les mêmes trucs. Hein.
Monsieur Dumont, je vous dérange pas. Hein. Que je vous trouve super joli.
Quoi?
Non, pardon. On me donnait des informations.
On me donne des infos. Bon.
On me donne des infos. Et moi, j'en avais un, c'était joyeux.
Monsieur Ducourbeau, oh oui, oh, que vous êtes joli, que vous me semblez beau.
Merci, Fadj. Est-ce qu'il y en avait un dernier, quelqu'un qui voulait...
Quoi, en colère? Monsieur Ducourbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Mais tu vois, ce que je veux dire, là, c'est un peu démonstration, mais qu'est-ce qui se passe là, dans ce moment-là? C'est-à-dire qu'il y a un mot et directement ça doit percuter. Donc cette vitesse-là, on va vous la demander en studio. Et on va vous le... Là, je suis dans la parodie. Mais imagine-toi que tu fais Carte Noire. Vous vous rappelez Carte Noire? Moi, quand j'ai fait Carte Noire, le café. Là, vous avez quelqu'un qui vous demande, vous allez vendre du café. Et vendre du café, je peux vous dire que c'est pas évident parce que ça correspond à rien, comme le parfum. C'est pour ça qu'on voit toujours des films un peu étranges, quoi. Bah, Carte Noire, il faut Tu peux pas faire carte noire, c'est le meilleur café. Ça marche pas, tu vois. Non. Donc on te demande un truc très très carte noire, un café, mes désirs. Tu vois? Ben oui, mais donc ça veut dire que tu intègres la demande du client qui doit avoir une caresse, la masculinité parce que c'est du café. Enfin, tu vois, donc cette réflexion-là, cette vitesse que je peux avoir et que d'autres ont, ça veut dire que vous devez avoir la même vitesse. Et si vous avez cette vitesse-là, bah, tu vas te prendre plutôt moi ou quelqu'un d'autre qui est du, entre guillemets, même niveau que quelqu'un qui débute.
Bien sûr.
Donc, faut attendre qu'on soit mort. Et comme je suis immortel, ça va pas être simple.
Ah. Oui. À ce week-end, on a une question pour tous nos invités.
Ah.
C'est quoi pour vous le week-end ?
Quoi ?
C'est quoi pour toi le week-end ?
Ce week-end ?
Le week-end, en règle générale.
Le week-end de quoi ?
Genre le week-end.
Un week-end pour toi.
Qu'est-ce
pour
moi ? Un week-end.
Ouais, un week-end, c'est pas des week-ends parce que je suis toujours soit en convention, soit avec ma femme, mais c'est pas un week-end. Non, je déconne. Non, tu lui diras pas ça, hein, Tom. Non. Bah, week-end, c'est soit la folie, l'énergie, les rencontres, la bienveillance, l'amour, l'amitié, la tendresse que tous les gens nous donnent et me donnent, soit c'est zen total. Ah si, il y a quand même un mot. Le week-end. Et ne criez pas, hein. C'est PSG, ok ?
Moi, j'ai une ultime question.
Ultime question !
Est-ce que tu regardes des films en VO ou est-ce que tu regardes les versions adaptées ?
Eh ben, excellente. Je vais te dire, je regarde les dessins animés en VF.
Ok.
Et les films en VO.
Faire un petit jeu. Alors, je te propose de nous faire des voix. Et nous, on va essayer de deviner, bien sûr, vous.
Ah, c'est
avec
moi
nous,
qui décide quelle voix ?
Ah oui, bien c'est sûr, toi qui décide quelle voix ?
Oh la vache !
Ah bah oui ! Ah bah. Mettons un petit peu de difficulté. Bien sûr, vous jouez avec nous dans
putain,
le public.
C'est super dur. J'ai pas préparé, moi. Des voix que j'ai déjà fait.
Oui, okay, n'importe quoi.
Bienvenue à l'auberge.
C'est le tavernier dans Hearthstone.
Bravo.
J'en ai une.
À toi.
La boule rouge. Ok.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
C'est Ramus, non ?
Ouais, bien joué.
Benjamin.
Ramus dans League of Legends. Oh la vache ! C'est l'heure du coup de marteau !
Est-ce que quelqu'un l'a ?
Non.
Leroy ?
Non.
Inar ? Dans LOL ? Non ?
Non.
Le quoi ? Chat dont tu parlais tout à l'heure ?
Non. C'est Muradin dans Warcraft. Tu l'avais ? Bah alors !
N'hésitez pas,
Une autre. Dire Bob une autre. Color, mais
allez, une autre.
Tu vas commencer à connaître la peur.
Batman.
Non, Batman,
le méchant
c'est...
dans les mystérieuses cités d'or.
Ça aurait pu être ça, oui, bravo. Dans Zares, il est plus... Oui, ça aurait pu être ça, c'est un peu ça. Non, c'était un orc dans Warcraft aussi, donc...
Un petit dernier
Un petit dernier, là-bas, je vous ai dur. Qu'est-ce que je vais... Ah si, je sais pas si c'est un jeu que vous connaissez.
Suis-moi. Je suis Abe.
Ah bah, Abe.
Bah oui, Abe, je le dis. Ça vous dit rien? Abe, l'Odyssée. Non, Abe. Oddworld, l'Odyssée d'Abe.
C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Page. Merci.
Merci à tous. Merci.
Merci d'avoir passé un moment en compagnie. C'était un très bon moment pour merci. Nous. Est-ce que pour toi aussi?
Eh bien, écoute, je dirais Radio Angers, je suis. Non plus. Radio Angers, je ne suis plus jamais en danger. Ça n'a aucun rapport.
Merci. J'avais deux petites questions.
Le mec, il n'a pas fini. Ok, on s'en va. Deux petites questions. Vas-y.
Une petite question. Est-ce que vous accepteriez de faire une photo avec nous ?
Non. Et l'autre ?
Et la deuxième question, est-ce que tu aurais une petite actualité à partager avec nous ? Un petit truc que tu vas faire ou un gros truc ?
Alors, les gros trucs, j'ai pas le droit d'en parler, donc c'est pas la peine. Non, l'actualité, c'est que je recommande en tant que musicien un album de musique de funk.
Oh, yeah.
Et voilà, où il y a ma fille qui chante très très bien, qui participe. Donc, ça va sortir au compte-gouttes dans les mois qui viennent, un clip tous les mois ou cinq semaines, je sais pas. Et un livre au mois d'octobre. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité plutôt entre guillemets spirituelle, où je fais beaucoup de vidéos un peu de développement personnel, spirituel et tout, j'ai un livre qui va sortir. Voilà.
Okay.
Et alors, je me la suis jouée totalement, c'est que j'ai mon titre de. Le titre de mon livre est très très court et très pas nébuleux du tout. Ça s'appelle L'oiseau qui chantait l'infini et l'arbre qui parlait d'éternité.
Ouh. Wow.
Et voilà. Et c'est ce soir. Sur TF1.
Merci infiniment, Page.
Mais je fais une photo avec vous, t'inquiète pas.
Merci
tout le monde.
Merci beaucoup et merci
bye.
Public.
Merci public.
C'est le week-end.
Vous l'avez compris, nous sommes dans une émission spéciale, et qui dit émission spéciale dit deux invités, naturellement. Alors après Padge, nous avons retrouvé dans les allées du Angers Geek Fest, co-organisé par Destination Angers et Leno, Gastronogeek, le créateur de contenu geek et gastronome. Bonjour Gastronogeek, bonjour Thibaut Villanova.
Salut.
Bienvenue sur Radio G, bienvenue dans C'est le week-end, comment allez-vous ?
En vrai, ça va super bien. Là, tu me prends en fin de journée, donc un peu fatigué, tu l'entends à ma voix, mais ça va super bien, le festival est génial.
Je demandais en début d'émission à Benjamin et Maël, les deux chroniqueurs qui m'accompagnent, et à Padge, notre première invitée, s'ils étaient geeks. Ouais. Padge n'est pas vraiment geek, mais est-ce que toi t'es geek ?
Alors moi je suis ce qu'on appelle l'archétype du geek originel. Je fais vraiment partie du modèle de départ, tu sais, celui dont on se moquait au bahut, le gars qui proposait les parties de jeux de rôle et qui devait expliquer ce que c'était aux potes. Non, ouais, moi je viens de cette culture-là. Initialement je viens de ça. La cuisine c'est vraiment après. Ça s'est développé dans ma vie d'adulte et professionnelle, mais je suis vraiment un enfant de la balle, ouais.
Un enfant du geek.
Ah bah je suis le premier de ma famille, je pense. Vraiment, ouais. Mes parents, pas du tout.
Et après, du coup, ça a suivi dans ta famille. Il y a eu d'autres qui se sont mis.
Ouais. Déjà, ma femme et moi, ma femme Bérangère, elle est dans le même délire que moi. Notre fils, je crois, malgré lui, a le syndrome. Hein. Et puis mes parents et mes potes et tout ça, ouais, sont un peu. Si tu veux, la pop culture a longtemps, ça a été considéré comme quelque chose de pas très très sérieux. Et d'en faire mon métier, pareil, c'était quelque chose d'assez compliqué à entendre. Et en même temps, aujourd'hui, c'est très très mainstream, c'est très très démocratisé. Tu vois, aujourd'hui, à Machine et Café, on parle de Game of Thrones, on parle de Breaking Bad, Walking Dead et ainsi de suite. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et puis pareil, il y a un gros développement de l'actual play, du jeu de rôle sur Twitch et ainsi de suite. Les marques veulent absolument leur jeu de rôle. Enfin, tu vois, il y a un vrai vrai truc qui se met en place. Les séries sont adaptées des jeux vidéo. Enfin, quand j'ai commencé, moi, Mario, c'était sur ma NES et sur mon écran cathodique. Et maintenant, ça sort au cinéma. Et c'est fou, tu vois. Donc ça a évolué, c'est plus facile maintenant. Ouais.
Alors Thibaut Villanova, tu es devenu gastronogeek, mais comment est-ce que tu as eu l'idée de devenir un jour gastronogeek ?
Alors déjà, gastronogeek, c'est devenu mon nom d'auteur parce que les gens m'appelaient comme ça en convention. T'es un espèce de raccourci, c'est le gastronogeek, tu vois. Alors qu'à la base, c'est vraiment le nom du livre, c'est le nom du projet. L'idée, c'est un alignement de planètes. C'est-à-dire que il y a 12 ans, on est en 2000, ouais, il y a 12, à peu près 12 ans. Gros essor des web-séries. En 2012, moi, je bosse dans un lieu à Paris qui est assez iconique sur la pop culture et qui a des décors. Donc, on propose l'endroit à pas mal de plateaux, à pas mal de studios Bagel, Golden Moustache, et les créateurs que tu connais. Et du coup, ça me permet d'entrer dans ce monde-là. En parallèle, c'est le développement à la télé. On a eu Lost, on a eu Prison Break. Donc les gens, ça y est, c'est bon, les séries, ça devient un truc qui fait un phénomène de société. Et puis, se développe à fond Heroes et tous ces trucs-là. Tu vois, on arrive sur Game of Thrones, on arrive sur tout ça. Et comment dire, il y a de la food dedans. Et moi, je fais des soirées à thème pour les potes, je fais à manger pour les parties de drôle. On se regarde des films et des séries. En général, je fais les plats que t'as dans le truc. C'est assez habituel chez moi. Dans ce lieu où je travaille, je propose des plats thématiques ou des menus qui vont coller aux événements, aux sorties de livres, aux sorties de jeux vidéo, et ainsi de suite. Et ça prend un peu, quoi. Et puis, j'ai envie de faire une émission de cuisine parce que je me rends compte que Top Chef, ça cartonne. Les émissions de cuisine, Master Chef, Top Chef, ça commence à décoller à la télé. Et personne cuisine, un, inspiré par l'écriture de l'imaginaire, et deux, cuisine pour ses potes, pour les soirées télé, les plateaux repas et tout ça. Et du coup, je me dis, je vais faire une émission de cuisine, la cuisine des mousquetaires, tu vois, Maïté, mais geek, tu vois. Et je le pitch à pas mal de prods, et tout le monde me dit, c'est vachement bien, mais on n'a pas d'argent, il faudrait de l'argent pour le faire bien. Et je me retrouve à écrire des recettes, et avec un truc, et il se trouve que ma femme, à ce moment-là, on commençait à sortir ensemble, mais elle est déjà illustratrice de métier, et déjà directrice artistique dans l'édition, et me dit, mais en fait, t'as un matériel génial pour faire du livre, essayons, quoi. Et je rencontre les éditions Hachette, quart d'heure l'idée, et en fait je me dis on va y aller à fond, on va faire un vrai livre de cuisine avec un photographe culinaire qui va faire les photos d'Alain Ducasse, sauf que maintenant il va faire les photos d'Aragorn, tu vois. Et à pitcher, ça a pas été facile, à montrer ce qu'on voulait faire, à recréer les décors, à tout crafter, à tout faire, ça a été compliqué, et ça a très bien marché. Et du coup, j'ai décidé de tout plaquer pour faire ça, parce que je me suis rendu compte que les gens étaient intéressés, contents qu'on pense à eux, contents qu'on fasse un livre geek qui est pas que le nom, qui soit geek, tu vois, qui a un truc avec de la recherche de fond. En lisant, ils se rendent compte qu'il y a pas que de la cuisine, il y a aussi une bonne connaissance des références. Et puis voilà, et de fil en aiguille, ça a marché, c'est devenu mon métier. Voilà, tu sais tout.
Merci, merci beaucoup. C'est quoi la recette la plus facile que tu as eu à faire et la plus dure aussi?
La recette la plus facile, c'est un peu triché parce que j'ai rien réinventé là-dessus. C'est l'omelette du Cape dans Daredevil, tu sais, l'omelette que se fait Wilson Fisk sur un prélude de Bach. Et c'est un peu ce qui m'a mis le pied à l'étrier sur YouTube. C'est une vidéo. À l'époque, c'est Squeezie qui me botte le cul pour que je lance ma chaîne YouTube. Et il vient faire une omelette parce que c'était la recette la plus compliqué pour lui à faire. Il m'a dit on va faire ça d'abord, après, parce que le reste je peux pas garantir. Et voilà, c'est le plus simple, non? Le strudel de Queenie des Animaux Fantastiques aussi, c'est pas très compliqué, mais c'est le bon dosage sur la vergeoise et la cassonade, le bon dosage sur la pomme, ou tu vois les pâtes à citrouille d'Harry Potter. C'est toujours essayer de trouver, mettre le produit en avant, bien le travailler, bien le cuisiner, faire une bonne pâte brisée, et tout ça. Ça, c'est des recettes qui sont pas dures techniquement, mais qui nécessitent un peu de réglage si tu veux pas faire exactement la même tarte que quelqu'un d'autre. Et les recettes les plus compliquées, elles sont dans le Food Wars. Dans le Food Wars qui va arriver là, parce que littéralement, on est sur de la cuisine qui se veut étoilée, la cuisine de shonen, tu vois. Et mon métier à moi, c'est vraiment de vulgariser la technique pour que les gens puissent le refaire à la maison. Et sur Food Wars, c'est très compliqué de vulgariser parce que il y a sur une recette de Food Wars, il y a peut-être 20 ou 30 étapes, là où il y en a 6 ou 7 sur un truc simple, tu vois. Donc c'est compliqué, la recette compliquée. Il y a une recette qui est pas, c'est pas hardcore, mais ça demande un peu de boulot, c'est le ramen végétarien de Joichiro, le père de Soma Yukihira. Le 490e duel qui se font entre eux dans le dortoir, dans la saison 1 à l'étoile polaire. Et Soma fait le risotto aux pommes, un risotto à base de jus de pomme et de bacon. Et son père Joichiro fait un ramen, c'est un peu compliqué. Et c'est très cuisiné, c'est très bien pensé, et c'est très cool à faire, et ce sera dans le bouquin. Et ça m'a donné un peu de fil à retordre. Voilà.
Finalement, si je résume un peu tout ça, finalement, tu deviens un peu médiateur à la fois de la cuisine et de la culture geek, finalement, d'une certaine manière. Ah ouais. Est-ce que tu te perçois un peu comme tel, la personne qui peut permettre aux gens qui ne connaissent pas la cuisine, des geeks qui connaissent pas la cuisine, d'accéder à la cuisine, ou ceux qui connaissent pas la culture geek mais qui connaissent la cuisine, d'accéder aux autres? Est-ce que c'est pas un peu finalement, c'est pas un peu la nouvelle porte en fait pour rendre ça un peu plus accessible, quoi?
Moi, je vois ça comme ça. On a créé GastronoGeek il y a 10 ans pour faire un pont. Je le dis dans la préface du premier livre, c'est vraiment un bifrost, quoi, entre la cuisine et la pop culture, vraiment dans son plus large spectre. C'est-à-dire que moi, j'entends beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'aimerais bien cuisiner, mais c'est dur. » Mais t'essayes ou pas ? « Ouais, bof, bah, essaye. » En fait, c'est de l'entraînement. « Ouais, mais je sais pas. » Ok, bah... Là, je vais t'aider, je peux t'aider. Mmh. Et ah ouais, mais cette référence-là, on m'a parlé, pas ouf. Mais creuse un peu, regarde, par toi-même. Nous, au total, là, on est à une vingtaine de livres, c'est un peu plus de 900 recettes. Et toutes sont différentes. Donc, au final, même s'il y a beaucoup de références en commun, il y a peut-être 200 ou 300 références, tu vois. Et c'est un choix, hein. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être autant qu'on n'a pas mis dans les livres, hein. Donc voilà, mais bien sûr, moi, je me vois pas comme un médiateur. Ça, c'est aux gens de décider si j'ai ce rôle ou pas. En revanche, je veux créer un outil de médiation. Ouais. Je veux que et surtout, je veux qu'on arrête de croire. C'est un vrai combat qui était au tout départ le mien il y a longtemps, mais j'ai pas changé. Le monde a changé positivement par rapport à ça, mais c'est juste que moi, j'en avais plein le cul qu'on dise que les geeks, c'était chips, pizza, coca. Ça, c'est un truc que je dis depuis 10 ans, mais c'est vraiment. Et tout à l'heure, j'ai encore une personne sur le festival qui a d'un certain âge. On ne donnera pas son âge. Sans doute à l'école avec Ramsès II. C'était une vieille, quoi, tu vois. Elle m'a dit, mais ça se mange, vos trucs? Et en fait, tu peux pas bien répondre à la question. Parce que si tu dis oui, ça se mange, de toute façon, dans sa tête, c'est vos trucs. Mmh. Elle a, moi, j'ouvre un pont, tu l'empruntes. Elle a mis une barrière devant le pont, ouais, elle le caillasse. Tu vois. Donc. Moi, la porte, elle est toujours ouverte. Il faut juste qu'elle ait envie de la franchir. Et puis, je l'accueille et je lui montre. Tu vois. Oui, bien sûr que c'est mangeable. Et oui, on peut le faire. Et oui, l'idée, c'est de... Si, parce que tu n'as jamais cuisiné, tu adores une série et je t'ai fait la recette et tu dis, putain, ouais, je vais manger comme mon héros. Et tu te mets à cuisiner. Bah, toi, tu as gagné. Moi, j'ai gagné. Et tout le monde a fait le chemin. Et on s'est retrouvés au milieu et on a partagé. C'est ça, l'objectif.
Même finalement, l'inverse aussi. Genre, tu cuisines, tu te rends compte, par exemple, tu fais ton bouquin et là, tiens, c'est quoi ce jeu? Et tu découvres un jeu. Finalement, tu t'es ouvert un truc que tu n'avais jamais imaginé, finalement.
Exactement. Il y a des fois où, en fait, comme avec la photo, on essaye d'être très photoréaliste par rapport à la référence. Moi, j'essaie vraiment de faire en sorte que les gens, ils aient l'immersion à fond, quoi. Donc, si tu veux, il y a ce truc de dire, si la DA de la photo te fait découvrir un truc, tu dis, putain, c'est quoi cet univers? Ça a l'air fun. Et que tu vas allumer le jeu. C'est arrivé pour. Des gens qui connaissaient, parce que c'était au moment où Elder Scrolls Online est sorti, donc Skyrim, ça c'est sorti en 2011. T'es un peu dans ce délire-là, quoi. C'était un peu médiéval, mais pas vraiment. C'était médiéval, nordique, viking, magique, chelou et tout, tu vois. Et parce qu'on a fait les photos pour le lancement du jeu et qu'on a vraiment mis les ustensiles, il y a plein de gens de la communauté qui connaissaient pas, pareil, qui étaient les gens qui étaient pas pas gamers, plus geeks, mais pas gamers, qui se sont dit putain, mais ça a l'air cool le truc, on va découvrir. Parce qu'ils me font confiance à mon équipe et moi pour dire si on a mis la ref dans le livre, ça veut dire que ça vaut peut-être le coup qu'on aille regarder.
Merci Gaston Geek. En tant que geek fan de pop culture, c'est quoi ton œuvre préférée?
Alors
attention à ce que tu vas dire.
Non. c'est marqué là. Non, moi je suis dingue de Legend of Zelda dans la vie en fait. C'est tu vois, j'ai les bras tatoués, repeints. J'ai fait ces livres. J'ai fait 10 ans de gastrono geek pour faire ce livre, La cuisine dans Zelda. C'est mon objectif. C'est fait maintenant. Tu vois, c'est voilà. Et ouais, Zelda, ça m'accompagne depuis que je suis enfant. C'est le premier jeu vidéo auquel j'ai joué sans rien y comprendre, parce que c'était en anglais sur la console de mon rep. Et voilà, tu vois. Et la musique, et ça m'accompagne, voilà, tu vois. Longtemps, je t'aurais dit Harry Potter, parce que c'est pareil, ça m'a beaucoup accompagné à l'adolescence. Et ça tend à... La référence bouge pas. C'est la perception de... Tu vois, je pense que J.K. Rowling a fait beaucoup de mal à l'univers Harry Potter par sa transphobie. Et c'est un truc qui me... Moi, j'ai grandi avec, j'ai évolué avec. C'est une référence qui m'a beaucoup accompagné. Donc maintenant, je la réfléchis différemment, disons. J'ai toujours autant plaisir, mais je la réfléchis différemment. J'aime que les univers imaginaires qui me font rêver me laissent dans le monde du rêve, tu vois. Ouais, et celui-là, il m'a, ces temps-ci, ces dernières années, un peu trop ramené les pieds sur terre. Donc longtemps, je t'aurais dit ça. Zelda, ça n'a jamais changé. Et puis malheureusement, je suis un enfant de la balle, donc Star Wars aussi, tu vois, c'est vraiment... Là, je suis très heureux de ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit avec Andor ou avec le Mandalorian. On a du vrai Star Wars, simple, pas prise de tête, très bien fait, très généreux, bien plus cool que les trucs qu'ils nous ont sortis ces dernières années au cinéma. C'était pour la balle perdue. Non, voilà, mais Zelda, pour répondre très simplement à ta question, Zelda.
Et pourquoi Zelda? Qu'est-ce qui t'intéresse dans Zelda? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, autre de, enfin, d'avoir joué quand t'étais plus jeune, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui aujourd'hui dit
Ouais, je sais pas. C'est très dur d'avoir une réponse qui est logique ou raisonnée là-dessus, parce qu'il y a pas de, raison, tu vois. Je crois que c'est les premiers thèmes qui m'ont ouvert. En fait, c'est ce qui m'a donné envie de lire The Legend of Zelda, tu vois, l'Adventure of Link, et puis ensuite Link's Awakening, avant Link to the Past, tout ça, c'est. C'est des jeux qui m'ont fait réfléchir au monde du rêve, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont donné envie d'ouvrir des bouquins de fantasy. C'est ce qui m'a amené à découvrir le jeu de rôle avec Donjons et Dragons très jeune, tu vois. À l'époque où c'était vraiment pas démocratisé, on était quelques potes. En fait, j'allais acheter mes bouquins dans le 6e et à Paris, et y avait une librairie qui vendait des jeux de rôle, mais qu'on vendait, à l'époque, on les sortait par 300, on les sortait pas par 3000. Et du coup, tu vois, et en fait, j'ai découvert ça comme ça. Et puis, Zelda, la musique, le fait que c'est l'un des premiers jeux que j'ai pu embarquer avec ma Game Boy partout avec moi, il y a ça aussi. Donc ça a beaucoup joué. Et puis ensuite, il y a eu la claque Ocarina of Time. À l'époque, j'étais en Espagne. Je me rappelle que j'avais économisé pendant des mois pour acheter la 64 avec l'argent de poche. C'était 39 900 pesettes. Donc, un peu plus de 400 balles, quoi. Et Ocarina of Time, j'ai joué à ça parce que j'avais que ça et que ce jeu-là pendant des années, quoi. Et, c'est pareil. Les thèmes d'Ocarina of Time, je les identifie vachement au meilleur moment de ma vie adolescente. Et puis, tu vois, j'ai grandi avec les souvenirs de Wind Waker et Twilight Princess. Enfin, ça m'a vraiment accompagné tout du long. Ça m'a toujours ému. Ça m'a toujours porté. J'écris beaucoup dans le cinéma. Tu vois, j'ai vachement grandi avec les films de Burton et la musique de Danny Elfman. L'un des gros trucs que m'a permis Gastrono Geek, c'est de cuisiner pour Danny Elfman. Tu vois, lors de ses concerts à Paris, j'ai eu le plaisir de cuisiner, de faire des menus et de cuisiner pour lui. C'était très bizarre de cuisiner pour un mec dont t'écoutes la musique quand t'écris tes livres, en fait. Et en fait, moi, j'écoute énormément de musique et j'ai fait longtemps beaucoup de musique. Et j'écoute beaucoup de musique instrumentale quand je travaille ou quand j'écris ou quand je cuisine. Et les thèmes de Zelda sont parmi les trucs que je peux écouter pour dormir, tu vois, pour vivre, pour respirer. C'est les trucs que je partage avec mon fils qui a 5 ans. Le soir, c'est la musique que je lui joue, ces trucs. C'est un truc très humain, très lié à ma vie, à mon expérience de vie et à la manière que j'ai de rêver les choses et de vivre les choses. Tu vois, Breath of the Wild, pour moi, ça a été un moment de ces 833 heures de grande joie, tu vois. parce que quand j'ai rien à foutre et que je voulais me balader et qu'il pleut dehors, bah, je vais être en Breath of the Wild, tu vois. C'est, voilà, je, non, vraiment, j'ai ce lien-là au jeu, tu vois. Si j'avais une fille, elle se serait sans doute appelée Zelda, avec l'accord de ma femme. Mais ouais, je serais incapable de te dire pourquoi. Ce que je peux te dire, c'est comment je le vis, mais pourquoi, j'en sais rien. C'est juste l'un des trucs les plus simples et les plus beaux qui soient. Tu vois, j'étais à Kyoto il y a quelques semaines et me balader dans la campagne de Kyoto en sachant que c'est là qu'est passé Shigeru Miyamoto quand il a imaginé les premières aventures. Il y avait un côté très boucle du voyage, tu vois. Et voilà.
C'est super bon, on a vraiment envie de découvrir Zelda si on ne le connaît pas trop quand tu l'expliques. Moi, c'est un peu mon cas, je connais pas trop. Benjamin, je crois que tu connais un peu plus que moi l'univers de Zelda.
Bah, oui, en vrai, je le rejoins là totalement et tout. Surtout sur. Bon, moi, j'ai un peu connu aussi comme toi, mais peut-être un petit peu moins. J'ai pu découvrir sur Oracle des Saisons, Oracle des Âges en premier.
Ouais,
et en vrai, genre, j'étais assez jeune, mais je bloquais comme un con au moment où il y a la petite sorcière qui volait tout ça. Je me dis, fallait absolument que je la rencontre tout le temps pour avoir le truc. Et j'avais pas encore la logique Zelda. Puis c'est vraiment avec, je crois, c'est Wind Waker en premier. Ouais. Et après, j'ai fait Ocarina of Time, tout ça. Et sinon, l'amour de Zelda s'est développé à ce moment-là. Mais ouais, Breath of the Wild. Un vrai jeu contemplatif et tout, et je t'entends complètement pépite de ouf.
Ouais, pépite. T'as rien à faire, c'est pas grave. Tu peux en profiter.
De ouf.
Et puis en plus, c'est très généreux comme jeu. Si t'es fan de la musique dans Zelda, tout le monde dit qu'il n'y a pas de musique dans Breath of the Wild. C'est des gens qui ne sont pas attentifs, mais. Je veux dire, le premier thème du premier Zelda, ou le thème de la berceuse de Zelda, que t'as dans Ocarina of Time, tu l'entends quand tu montes sur un cheval et que tu n'es pas attaqué par un ennemi, juste tu déambules. Si t'attends assez. Le thème sort, tu vois. Et c'est des cadeaux, c'est des pépites, c'est des petits easter eggs donnés aux gens qui juste prennent le plaisir d'aller se balader dans le jeu et de dire tu vois, le truc des Korogu, il y a 900 noix à ramasser dans le jeu. Bon. Mais qu'est-ce que ça t'amène à découvrir. Enfin, c'est un jeu, tu ramasses tu lèves un caillou, il y a un truc. Tu pousses un buisson, il y a un truc. Tu grimpes une montagne, il y a un truc. C'est un jeu extrêmement généreux pour les joueurs, que ce soit pour les fans de Zelda ou juste pour le joueur, en fait. Tu veux tenter un truc, tente-le, tu peux le faire. Et c'est cool, c'est vraiment. Il y avait beaucoup d'open world avant, tu vois. Celui-là, c'est le premier où tu peux tout gravir, tout grimper, tout sauter, tout tester, tout faire.
Ça a été beaucoup dit, c'était un open world qui avait permis, derrière, aux autres open world aussi de faire des choses similaires, qui ont parfois un peu trop copié la formule Breath of the Wild.
Mais tu vois, c'est un. Enfin, Breath of the Wild, il y a plein de trucs que tu vois dans plein d'autres jeux. En fait, si tu veux, c'est vraiment un jeu qui a compris son époque et qui a dépassé des mécaniques. Vu et revu, et qui les a intégrés, réappropriés et mis dans l'univers et dans l'écran Zelda.
Pour beaucoup de gens, le travail d'un créateur ou d'une créatrice de contenu, c'est vague. Ouais. Toi, t'es sur YouTube, t'es sur Twitch, tu publies des livres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton travail tous les jours? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu travailles?
On parle pas de l'activité qui consiste à vendre des quantités pas possibles de drogue venant de Colombie. On parle pas de ça.
On t'aira de toute manière.
Très bien. Voilà. Plomo o Plata, c'est le nom de la boîte. Non, faut pas. C'est pas vrai. Non, en fait, moi, je viens du livre au départ. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à l'impulsion de Squeezie à l'époque, qui me disait, mais t'es fou, en fait, faut le faire. Et c'était terrifié parce que je savais que j'arriverais pas à faire à l'image ce qu'on faisait dans les livres. Et je me disais, les gens vont être déçus. Le livre, c'est très beau, parce qu'on peut passer 3 heures sur une photo. Et on est une équipe, tu vois. La vidéo, t'es tout seul. Je sais pas faire de montage, je sais pas cadrer. Et puis la cuisine, c'est très vivant. Tu peux pas faire du face cam et raconter ta life. Faut que tu fasses changer les angles de caméra. Mais du coup, tu vois, c'était un truc, quoi. Et aujourd'hui, mon métier, il consiste à deux choses. Principalement, le livre de cuisine. Donc ça, j'écris et je dirige. J'écris les recettes, je teste les recettes. Le gros de mes journées, c'est ça. Très basiquement, le matin, 7h, je fais les mails. 8h, j'amène le petit à l'école. 9h, je suis en studio. Je check les recettes à tester. J'écris, je vais en cuisine. Je teste, ça marche. Je rédige. Je fais une fiche technique de cuisine. Je fais la recette. Si elle fonctionne, je rédige la recette pour qu'elle soit dans le livre. Ensuite, réunion de travail avec l'équipe. Ensuite, on tourne les vidéos pour TikTok. Ensuite, ou Insta. Quand on tournait beaucoup de YouTube, ça pouvait nous prendre 2-3 jours. Ah, donc basiquement, tu mets les caméras et puis tu fais la recette 10 fois parce que t'as besoin de tout choper. Puis tu fais le montage. Je fais plus mon montage depuis 1 an. Maintenant j'ai un monteur qui fait le montage. Et puis ensuite, diffusion, tu vois. Mise en place des messages sur les réseaux sociaux, écrire et voilà. Ça c'est pour le gros de la vidéo. 25 heures par semaine en moyenne, je suis sur Twitch. le soir, de 21h à 1h du matin en général, et la journée le jeudi de 11h à 13h30, 14h. Le jeudi, c'est cuisine avec un invité en plateau, et le reste du temps, c'est gaming le soir, ou soir et react, ou libre antenne, où on parle de gastronomie, on parle de société de consommation liée à l'alimentaire. J'essaie de décrypter les mécanismes, les lois qui passent sur l'alimentation, ou regarder des reportages et expliquer des notions, vraiment faire de la vulgarisation, quoi. Donc voilà, ça ressemble à ça. Puis le week-end, les conventions, et voilà. Basiquement, t'as à peu près tout. Et après, il y a les phases de prod des livres, où là, c'est un cycle différent, parce que on teste les recettes, ça change pas. Puis ensuite, on va en studio photo avec l'équipe photographie, donc une styliste et un photographe. On recrée les décors, donc on a toute la pré-prod, où on va fabriquer les décors, où on va commander les tenues, les costumes. Donc là, moi, je vais vraiment faire tout le suivi opérationnel. Mon taf, il est d'être... moi, je suis vraiment un commandant de navire. J'ai des gens, très, très petite équipe, et la même depuis le départ, qui vont avoir des tâches à faire. Et moi, je vais juste être un maître d'orchestre et faire en sorte que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent bien. Et puis voilà, ensuite le shooting photo, on fait les recettes et on fait les photos des recettes. Puis je donne les textes à la correctrice. Bérangère récupère les photos, elle fait toute la direction artistique, les couvertures, les illustrations, la maquette. On envoie à l'imprimeur et puis on continue. Et voilà, le cycle ne s'arrête pas.
C'est un cycle continu, éternel, de création, de recréation,
ouais,
de recréation.
Remise en question tout le temps, 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 la remise en question, tout le temps.
Et est-ce qu'il y a des pauses à des moments, tu t'autorises à dire là c'est ma pause, je me pose, ou pas du tout, et c'est continuel et...
Alors c'est très, ça va faire très bravade, et je le conseille pas dans la vie. Moi je suis workaholic, c'est-à-dire que quand je travaille pas, je suis pas bien. Quand je pars en vacances, je travaille. Je m'engueule avec ma meuf parce que quand elle fait les valises, qu'elle les défait arrivée sur place, il y a des iPads et des PC planqués dans les poches, tu vois. Non, je suis pas bien quand je travaille pas. Donc c'est un truc, et je suis insomniaque. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment un truc de faut que mon temps soit passé à être utile. Je travaille pas. J'ai des heures où je me c'est pas du repos. J'ai des heures dans la journée qui sont incompressibles et qui sont sanctuarisées pour ma femme et mon fils. C'est vraiment important pour moi d'avoir du temps qualitatif avec eux. En revanche, c'est important pour moi... je fais de la création de contenu, c'est très éphémère comme métier. Je fais des livres, tu vois, je vendrais de la drogue ou des médocs, je gagnerais mieux ma vie. Je me plains pas sur ce que je gagne bien ma vie, mais je travaille 1000 heures par semaine. C'est juste que je travaille comme si un matin j'allais me lever et j'allais me rendre compte que les gens s'étaient rendus compte que j'étais une fraude et qu'ils allaient arrêter d'acheter mes livres ou regarder mes vidéos. Enfin, on est vraiment lié à tant au marché qu'au mode. Donc c'est pour ça que moi je suis énormément toujours dans la remise en question, dans comment on peut faire mieux les livres, comment on peut changer sans changer, parce que l'esprit de collection, les gens ils ont pas envie que ça change, mais si tu leur apportes du nouveau, ils sont pas contre. Donc moi je suis pas dingue de fan de repos, j'aime pas rien foutre, et quand j'aime rien foutre, j'aime pas que ça dure longtemps, parce que je suis pas foutu comme ça, et surtout ça marche pour moi et je sais pas combien de temps ça va durer. Je fais ce que je peux pour que ça marche bien et rester dans une zone où ça me rend heureux, tu vois. Voilà.
Benjamin, t'avais une question ?
On a une petite question qu'on pose à tous nos invités de l'émission, attention. On a aussi posé à Page, apparemment lui il en a pas, mais pour toi c'est quoi un week-end ?
Un week-end c'est un Paris-Angers et un parc des expos. Et non, non, je vais être très honnête avec toi, parce que jusqu'en 2019 j'ai fait 32 week-ends de convention sur 52 semaines.
Ah,
ouais. Mais mon fils était tout petit, okay. Donc il y avait ce délire de toute façon il voit pas que je suis pas là. Et aujourd'hui beaucoup moins. Un week-end c'est simple, c'est je me lève tôt parce que mon fils se lève tôt. En général je vais faire le marché avec lui. Il choisit ce qu'il veut cuisiner, ce qu'il veut qu'on cuisine et qu'on mange. Ensuite on va à mon labo, on va au studio, on range, on fait les menus, on cuisine. En général je vais manger dans une petite brasserie au pied de la cathédrale de Chartres où j'ai mes habitudes, au comptoir avec ma femme et mon fils. Et puis l'après-midi, on va en balade, on joue un peu à la console. La journée est vraiment pour lui, quoi. Mmh. Et le dimanche, on fait la même chose. Et le soir, je travaille. Mmh. Voilà. Aussi simple que ça. Ça ressemble à ça. Mais week-end pépère, c'est en famille.
Je te propose, Cédric, de faire un petit jeu.
Vas-y.
Alors, on va faire un petit jeu dont on a piqué l'idée à...
Alors, j'ai piqué l'idée à Énergie, voilà. C'est un jeu qui s'appelle Le Qui Est.
Ok.
En gros, donc, je vais penser à un personnage, là. de pop culture, donc ça donne une petite indication. Et en gros, dans l'idée, donc, vous allez avoir une minute chacun pour me poser autant de questions que vous voulez. Je vais répondre par oui ou par non. Donc d'accord, des questions fermées, voilà. Et à la fin, si tu penses avoir trouvé le personnage, tu peux me proposer, tu as le droit de faire 3 propositions dans la période de 1 minute.
D'accord.
Ok ?
Je suis nul à ça. Mais vas-y.
Et attention, attention, petite subtilité. Le truc, c'est que je suis menteur. Donc, c'est-à-dire que ce que je vais dire, si je dis oui, ça veut dire que c'est non. Et inversement.
La vache.
Alors, vous êtes prêts ? Le premier d'entre vous qui trouve le personnage a gagné. Attention.
Okay. On joue tous avec le même personnage.
Oui, tous le même personnage. Okay. Donc, okay. Ce que les autres ont fait va vous servir également. Donc, okay, vous êtes prêts ? Okay. Je vais prendre le premier que j'avais. Ouais, je vais prendre celui-là. C'est parti. Let's go.
Personnage imaginaire ?
Oui.
Ah, putain, c'est dur de devoir penser à l'inverse.
C'est chacun son tour ou on peut toujours...
Non, c'est une minute. Il a une minute entièrement composée, puis quand c'est fini...
Ok, d'accord. Et homme, femme ?
Alors,
t'as eu besoin d'une question fermée, c'est ça ?
Question fermée,
c'est ça. C'est un homme ?
Oui.
Ok. Année 90 ?
Je saurais te dire. On va dire que non.
Okay. C'est Buffy ?
Oui, ça veut dire que non.
Ok. Ok. C'est une femme. Est-ce qu'elle est dans Le Seigneur des Anneaux ?
Oui.
Est-ce qu'elle est dans Harry Potter ?
Oui.
C'est très récent ou pas ?
Oui.
Oh là là.
Ah, c'est dingue. Ah, c'est une dinguerie.
Putain, attends. Donc, c'est une femme. Année 2000.
Top, on va essayer de passer à quelqu'un pour le coup. Alors, qui veut se tenter, Maël?
Maël, tu veux essayer ou pas?
Vas-y.
Ok, alors faut que je me souvienne de toutes les informations, je crois que j'ai oublié la moitié.
C'est pas un des 90.
Et c'est pas un personnage imaginaire. C'est pas Harry Potter? C'est pas dans Harry Potter?
Oui.
C'est pas dans Harry Potter. Est-ce que c'est dans un. Ah ben non, c'est pas un personnage imaginaire. Donc c'est dans un film?
Oui.
Ah. C'est dans un livre?
Pas exactement, mais non.
Ok, c'est quel dans à la télé? On l'a vu à la télé?
On va dire oui, mais
ok. Ah, est-ce que vas-y, est-ce que tu veux proposer?
C'est Lara Croft.
Oui.
Putain, j'y ai pensé aussi.
Pas Lara Croft, mais c'est pas un personnage imaginaire, il a dit.
Ouais, non. En fait, je bug. Je dis
personnage
pas...
imaginaire, non.
Non. Ah, donc si, c'est un personnage imaginaire. Ah, pardon. Ok, c'est un personnage imaginaire. Ok.
Ça resserre.
Bah oui. Donc c'est une femme, personnage imaginaire, à peu près années 90.
En vrai, années 90. Et
même 2000
moins, même moins.
Même moins.
Enfin, même plus, pardon, plus.
Plus, ah, 80. Ok. Je ne sais pas, je bug.
Ça
oui.
Putain.
Est-ce que c'est Zelda?
Oui.
Non.
Ah, c'est Zelda. Putain, t'as fait tout ça pour ça?
Ouais. Non.
Alors, moi, j'y vais pas.
Je vais être honnête.
J'y vais pas depuis tout à l'heure. J'y vais pas parce que je me dis, bon, je vais pas dire Zelda direct.
Moi, je connais Benjamin. Je savais qu'il allait prendre le truc le plus évident.
Ah, mais
c'était
là.
Sûr.
Ah, mais non, mais moi, j'y vais. C'est marqué en gros devant mon nez. Je me dis, mais non, il va pas avoir fait ce truc-là, quoi. Comment... Non, je te confirme, c'est les années 80. Ouais.
C'est bien ça. Comme on dit, on cache l'arbre avec la forêt. Enfin, la forêt avec l'arbre.
Ouais. Ah, bah ouais. Là, l'arbre était grand en plus. Voilà. Non, bien joué. Ah ouais, tu m'as bien eu.
Bah merci bien d'avoir participé à ce petit jeu, voilà.
Donc, avec plaisir.
Merci Thomas Villanova, merci Gaston Novick d'avoir accepté cette interview et ce petit jeu avec nous. C'était un super moment pour nous, j'espère que pour toi aussi.
Mais grave, c'est cool. Avec grand plaisir. Ouais, je te retiens.
Alors j'avais deux petites questions de fin, les mêmes qu'à Patch parce qu'on ne se réinvente pas. Est-ce que tu accepterais de faire une photo avec nous?
Bien sûr.
Et deuxième question que j'ai oubliée.
Est-ce que tu as une petite actu ou une grosse actu à nous partager?
Merci Maël.
Non, je peux rien vous dire. Et sinon, bien entendu, on continue à vendre les petits sachets de poudre au coin des.
C'est faux.
D'ailleurs, avant qu'on termine, maintenant, tant que j'y pense, Maël, tu as le défi de dire 3 fois un mot de suite de ton choix, immédiatement, sans aucune raison, sans aucune pensée. Oui. Dépêche-toi. Ouais, prêt, 3, 2, 1.
Dithyrambique.
Waouh, c'est incroyable. Je me demande pourquoi tu parles de ça.
Bah, merci beaucoup, merci beaucoup, Gastronovic.
Merci beaucoup.
Il est presque 20h, l'heure de nous quitter pour retourner à nos activités du vendredi soir. Merci beaucoup encore une fois à Pierre-Alain de Garrigue et Gastronogeek d'avoir accepté de venir dans l'émission. Merci à Radio G, Angers Geekfest, Destination Angers et Léno de nous avoir permis d'être ici. Merci Benjamin et Maël d'avoir été à mes côtés.
De rien.
Ah, merci à bien, toi Nico, merci à vous deux, c'était trop trop cool.
Merci aussi au public d'Angers Geekfest qui a été avec nous. Et bien sûr, cette émission est entendue podcastable sur radio-g.fr et Spotify. On se retrouve nous le vendredi 5 mai à 19h sur le 101.5
FM, en compagnie du créateur du podcast La Mémoire à Angers, Richoult,
wow,
de la team Javras. Et tout de suite, eh bien, c'est une heure de la piste de Radio G, puis nos amis du salon de Judy pour le Geekfest. Bonne soirée, Topette.
Bisous.